du siècle de Louis XIV. On n'est pas à Versailles, on y sera que 30 ans après. Donc, grâce à D'Artagnan, qui ne s'appellera D'Artagnan que lorsqu'il rentrera chez les mousquetaires, mais il s'appelle Charles de Batz de Castelmaure. Il est né à Lupiac, on ne sait pas quand, hein, 1613-1615. Voilà. Et donc, il est rentré dans la légende grâce au génie littéraire de certains personnages, comme Dumas et ses collaborateurs. Voilà, donc je vais actuellement vous dire que ça fait 353 ans de la mort à Maastricht de ce soldat, D'Artagnan, et il y a des nouveautés puisqu'on vient d'apprendre qu'on aurait retrouvé sa tombe, et donc on en parlera peut-être après dans les discussions. Il y a eu 350 ans, mais beaucoup d'activités depuis 2-3 ans, puisque depuis cet anniversaire des 350, il y a des courses qui se font à cheval dans l'Europe tous les ans. On essaye d'aller à Maastricht avec des clubs hippiques. Il y a des fêtes à Lupiac, il y a aussi des expositions. Une superbe exposition qui a eu lieu au château de la Vardens en 2025, je dis bien, qui va se reproduire cette année et qui a amené 27 000 personnes. Et là, il faut que vous y alliez parce qu'il y a des choses magnifiques qui ont été prêtées par le musée des armées, par d'autres organismes. Il y a des documents uniques. Donc tout ça, c'est Dumas, c'est D'Artagnan, qui intéresse de plus en plus de monde, et cet intérêt aussi dans la littérature, puisque on a eu aussi un prix Renaudot, Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui a eu le prix Renaudot cette année, en 2025, et qui parle des amours de D'Artagnan. Donc voilà, c'est autre chose. Ensuite, on va passer maintenant à sa célébrité, mais surtout une célébrité très importante dans le cinéma, puisque, si ça veut marcher, hop, voilà, il y a eu plus de 100 films qui ont été à la gloire de D'Artagnan, la légende de D'Artagnan, le D'Artagnan de Dumas, hein. Le dernier, c'est celui avec Cassel, Duris, là, de 2023. Mais il y en a au moins 100-110 qui ont été, et ce sont les affiches. Les affiches sont magnifiques. Et au château de la Vardens, elles étaient toutes exposées magnifiquement depuis 1913. Et là, même il y a de l'humour, vous voyez, Max Linder, les trois mousquetaires, bon, vous voyez, il faut y penser à ça. Passons. Alors ici, vous avez une des premières affiches, une des premiers films, qui est en 1912, dans le muet, et là, vous avez tous les protagonistes de la famille d'Artagnan et de ce que nous avons lu dans notre enfance, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, et Tréville qui est le chef de toute cette équipe, est venue du sud de la France, du sud-ouest, de la Gascogne, l'un est d'Oloron, Sainte-Marie, l'autre est de Lupiac, l'autre, enfin, bref, tous sont venus du sud amener leur accent à Paris. Mais c'est dû surtout au fait qu'Henri IV, avec le Béarn et Jeanne d'Albret aussi, les protestants du Béarn, hein, ont une culture très forte, et Henri IV s'est fait accompagner à Paris par ses troupes d'élite qui étaient déjà sous Henri IV, 15 ans, 20 ans avant, des gens très, très bagarreurs, très, très solides, très, très droits et humbles aussi, hein, c'était des gens pauvres, hein, le Béarn était pauvre, et voilà toute l'équipe, mais ceux-là ont existé. Alors ils sont dans la légende, mais ils sont aussi dans la réalité. Mais peut-être ne se sont-ils pas rencontrés, on ne sait pas. Tréville, c'est l'oncle d'Athos et d'Aramis. Bon, eux au moins se sont rencontrés. Mais D'Artagnan a-t-il rencontré les autres? On ne sait pas. D'Artagnan, il est venu avec un seul ami à Paris, avec un nommé Besmo. Besmo est de Pavie, à côté d'Auch. Et vous connaissez Auch tous, là-bas, c'est à côté, juste à quelques kilomètres. Et Besmond est resté l'ami unique et fidèle de D'Artagnan de son arrivée à Paris, où ils étaient paumés, vous allez voir comment ça s'est passé, cette arrivée, et ensuite, eh bien, ils se sont suivis jusqu'à la blessure de Besmond, mais pendant 15 ans, 20 ans, 40 ans, ils se suivront. D'Artagnan aura sa vie de militaire, et Besmond sera recyclé autrement, puisqu'il a été blessé dans un combat. Voilà donc par conséquent les protagonistes. Alors, notre ami Dumas, qui est un grand personnage que vous allez voir en suivant, est un homme qui a beaucoup circulé après avoir eu une certaine réussite. Il est allé dépenser son argent parce que Dumas, c'est un homme opulent qui gagne beaucoup d'argent mais qui le dépense aussitôt. Un personnage truculent, très intéressant et qui a réussi à trouver un bouquin à Marseille. Il ne l'a pas rendu, d'ailleurs, il l'a pris, il n'a pas payé, ni rien. C'est Dumas. Hein. Et donc, l'auteur était Gatien Courtis de Sandras. Cet homme a écrit Les Trois Mousquetaires. Je vais vous montrer ce qu'il a écrit, si ça veut marcher. Hop, mais je ne sais pas revenir. Hop, revenir. Précédente. Hop, je ne sais plus. Bon, enfin.
Si tu veux revenir, c'est là.
Oui, si tu peux, ouais. Reviens un commun. Voilà. Alors, les mémoires de D'Artagnan.
Ça saute ?
Les mémoires de D'Artagnan, sinon tu laisses ça, je vais passer après. Les mémoires de D'Artagnan ont été écrites et vraiment très romancées, mais aussi véridiques, parce que Courtis de Sandras, tel que vous le voyez, est un ancien mousquetaire. Il a 15 ou 16 ans de moins que D'Artagnan, il a servi sous ses troupes, il le connaît bien. Il a écrit des choses vraies, vraies, que Dumas reprend après, ensuite. Mais Courtis de Sandras est en plus acquitté les mousquetaires, et c'est un homme qui est rentré dans la critique du pouvoir. Il a passé quelques jours à l'étranger, il est parti en Hollande, comme on faisait à l'époque, parce qu'il y avait le protestantisme qui était sous-jacent, on recherchait les protestants, enfin ça commençait à tourner mal. Il est parti, et puis de là où il a écrit beaucoup de choses, hein, contre le régime. Il est revenu, il a passé son temps à la Bastille, et à la Bastille il a écrit le fameux Vie du mousquetaire. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la Bastille, il s'est trouvé avec le chef, le gouverneur de la Bastille, qui était l'ami intime Besmond, de D'Artagnan, qui a fini ses jours à la Bastille puisqu'il était blessé en combat. Donc Gatien Courtis de Sandras a recueilli des informations exactes sur la vie de D'Artagnan, du vrai, et qui a servi aussi. Alors le mythe se mélange là déjà à la réalité. Voici donc les mémoires de D'Artagnan qui sont sorties en 1702. Alors qu'il sortait juste dans la Bastille, il les a fait éditer. Et puis ce Courtis de Sandras, après, a écrit en Hollande des pamphlets contre le régime qui sont sortis après 1715, juste à la mort de Louis XIV. Donc il y a un autre personnage très intéressant, c'est Armand Praviel, qui est né à l'Île-en-Jourdain et qui, dans les années 1936, a cherché aussi à trouver les archives concernant la vie du mousquetaire, le vrai mousquetaire D'Artagnan, et je vous en parle parce que c'est un défenseur de la langue occitane. Il est du Gers et il a été académicien des Jeux Floraux. Voilà donc notre héros écrivain Dumas, qui est né en 1802 à Villers-Cotterêts. Il est mulâtre de peau parce que son père était général de Saint-Domingue et qui était aux ordres de Bonaparte, avec lequel il ne s'est pas entendu. Il a été renvoyé et Dumas est né à ce moment-là en 1802 lorsque son père avait été rejeté par l'empereur. C'est un ancien esclave, son père, ancien fils d'esclave. Et donc tout ça va suivre dans le contexte de l'écriture de Dumas. Dans toutes ses œuvres, plus tard, ultérieures, il y aura quand même cette haine contre les gens qui se sont moqués de son père et du fait qu'il était esclave. Voilà, donc son père meurt en 1804 et il va être élevé par sa mère difficilement, sans argent, un petit peu à la sauvage, hein, un petit peu. On va retrouver ses aventures dans ses romans. Hein. Il aime la nature, il aime les îles. Voilà. Donc par conséquent, Dumas, après, sans éducation, est rentré clerc notaire. Puis il s'est trouvé des amis. Il a essayé de rentrer, de se faire une voie intéressante. Il est rentré dans la littérature. Il a beaucoup lu l'histoire. Ça le passionnait. Il lisait beaucoup d'histoire. Et il est ami, en fait, avec Vigny, Musset. Et donc, ces gens-là, Hugo, vont l'aider à avoir une situation dans la littérature. Il a écrit des pièces de théâtre qu'il a commencé. Nous sommes en 1830-35. Et là, si vous voulez, la presse commence à se développer aussi dans le style de journaux. Il y a un bouillonnement culturel qui fait que Dumas va écrire des pièces de théâtre avec succès, dont une Henri III, qui va lui donner un certain prestige, avec l'argent de ses pièces. Il ne va pas rester, il va faire le tour d'Europe, bien sûr, et puis il va gaspiller tout ce qu'il a, parce que c'est comme ça, Dumas, c'est... Vous savez, je vous le dirai, il a fait un livre de cuisine. Donc, pour vous dire que c'est un fin gourmet, un homme qui aime la vie, hein, on dit qu'il a eu 50 enfants. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu deux ou trois fois. Hein. Comme ça, partout, à droite, à gauche. Et donc, c'était un amoureux, mais un homme très, très droit au point de vue du travail et tout, vous allez voir, parce qu'il a travaillé énormément, mais pas seul. Pas seul, parce que il avait des amis puissants qui vont l'aider dans le travail. Je passe. Et celui qui va l'aider, c'est Auguste Maquet. Auguste Maquet a manqué l'agrégation parce qu'il n'était pas du bon côté politique sous Charles X. Alors, il s'est dit, bon, ben, je ne vais pas retenter, je m'en vais aider les uns les autres. Il a aidé Dumas. Alors, Dumas en a fait son associé. Ça marchait très bien parce qu'il avait autant de... On ne pouvait pas savoir qui avait écrit une page d'un texte, que ce soit Dumas ou Maquet. Il y avait une collaboration très étroite entre les deux. Très étroite. Et ça a duré 8 ans. 8 ans, 8 à 10 ans. Et puis, Maquet, quand même, en a eu marre de ne pas voir son nom sur les présentations, tout sortait au nom de Dumas. Il y a eu un problème de contrat. Ils se sont fâchés. Et puis, il finira, avec un procès, et il le perdra. Puisque Dumas, dans les années 1845-50, aura déjà un nom, une aura qui fera que tout le monde le reconnaîtra. Après, il y a Paul Meurice, mais Paul Meurice a aidé Dumas à la fin de sa vie. Paul Meurice, c'est le légataire testamentaire d'Hugo. C'est un monsieur très droit qui a aidé surtout Victor Hugo quand il était à l'étranger, quand il était à Guernesey. Voilà. Donc il a aidé quand même aussi, moins que Maquet, bien sûr. Alors, les œuvres, les voilà. Voici le premier. Alors on est ça, je reviens dans l'époque, hein, parce qu'on est une époque où on rentre dans la bourgeoisie après les Trois Glorieuses, les gens, le développement industriel, tout ça, bon, ça va faire que la presse va avoir beaucoup, beaucoup de développement, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'écriture. La bourgeoisie veut s'instruire, mais pas avec des textes trop compliqués. Dumas va très bien, hein. Les Trois Mousquetaires, on le lit. Alors ça, par la chance qu'il y a eu, c'est que des magmas de la presse vont lancer le feuilleton journalier sur des journaux comme ici Le Siècle. Il y a la presse aussi, il y a Le Mousquetaire, il y aura Le Mousquetaire aussi, il y a plein de journaux qui vont sortir. Et c'est Émile de Girardin qui est un grand Bon, c'est le Bernard Arnault d'ici et de maintenant, hein, vous voyez, enfin, tout ça, il possède toutes les presses qui va le pousser, voilà. Donc voilà ce qu'ils mettent dans la première page, hein, les héros de l'histoire, hein, vous le voyez mieux que moi, vont avoir l'honneur de raconter à nos lecteurs, non, rien de mythologique. Donc ils lui avouent que ça va être très intéressant, effectivement, les gens se disputaient l'arrivée de ces journaux. Tous les jours, il y avait une page. Et tous les jours, il fallait produire la page. Alors c'est soit Maquet, donc c'est tout, l'un ou l'autre, soit Dumas qui écrivait, il se complétait. La seule différence qu'il y avait peut-être dans le texte, c'est que Dumas était un peu plus, jovial, il aimait davantage les combats, les trucs comme ça, pour apporter un petit peu de saveur supplémentaire au texte. Et après, l'histoire, c'est que après ces textes, on les réunissait et on produisait des petits opuscules qui se vendaient partout, les kiosques en étaient pleins, voilà. Donc alors, ça s'est continué, tout ça, pendant toute une dizaine d'années. Alors voilà tout ce qu'ils ont produit, je vais vous le dire, parce que rapidement, si je peux vous le trouver, c'est que il y a eu donc les mousquetaires, les trois mousquetaires, c'est le premier qu'ils ont fait ensemble. Et puis après, toute la liste des 20 ans après. Voilà. Les trois mousquetaires. Je vais mettre les lunettes, si vous permettez. Je vais vous le dire quand même parce que ça va vous. Vous les connaissez, vous les avez lus, vous les avez lus ces bouquins, on les a tous lus. Alors, les trois mousquetaires, 20 ans après, le vicomte de Bragelonne, hein, les deux Diane, le comte de Monte Cristo, la reine Margot, l'homme au masque de fer. Alors on va parler du masque de fer après. La tulipe noire, la tour de Nesle et la dame de Montsoreau. Alors tout ça, ça a été fait par les deux en association. Voilà. Donc je voulais vous le dire parce que c'était très important. Dumas n'a pas travaillé seul. Mais il en a eu tous les bénéfices. Alors notre héros est né à Lupiac. Donc, je vous l'ai dit, 1613, 1615, je ne sais pas trop. Voilà le château de la famille de Castelmaur. Hein. Voilà. Charles est le septième enfant. J'ai l'impression que ça, c'est moi. Charles est le septième enfant de la famille qui est ruiné pratiquement parce qu'ils ont eu des procès concernant l'obtention de ce château qui traîne depuis des années. Ça leur retombe dessus et ils vont finalement vendre des meubles, où ils en sont. Alors, elle, la mère, est une personne très, très connue dans le Gers, puisque c'est dans le Gers, c'était pas le Gers, dans la région, c'est une de Montesquieu. Alors, les Montesquieu, c'est des grandes familles qui sont là depuis les croisades et qui... Il y en a encore, puisqu'ils sont députés, certains qui étaient députés, d'autres qui écrivent des bouquins, enfin, il y a les Montesquieu, ils sont très connus. Et c'est elle qui porte la noblesse. Hein. Et son père n'a pas de... c'était des commerçants de Lupiac. Donc, c'est elle qui va donner une lettre de recommandation à son fils, afin qu'il rencontre à Paris le fameux Tréville, ou Trouville, qui est aussi apparenté avec les Montesquieu. Voilà, donc par conséquent, il a une lettre de recommandation qui va lui permettre de monter à Paris avec une espèce de cheval de 20 sous, il a payé une rosse, puis une épée sur le côté. Et Dumas est très exact à ce point-là, c'est qu'on s'est moqué de lui tout le trajet. Il s'est défendu souvent à coups de poing et il a rencontré Besmo, son copain qui venait de Pavie. Et depuis, donc, ils arrivent tous les deux dans Paris. Alors, voyez, vous avez là, Boileau a fait l'embarras de Paris, il y a ce placard ici, là, cette affiche. Et dans l'embarras de Paris, bien sûr, ils sont... c'est comme ça qu'ils ont eu. C'est raconté. Ils sont affolés un petit peu quand ils arrivent dans ce pont neuf qui est plein de gens qui, de toutes sortes, des nobles, des mendiants, des gueux de toutes sortes, des arracheurs dedans, des, des, Voilà, enfin bref, tout ça, des chaises à porteurs qui circulent. Voilà, alors, le comte de Tréville, je vous en ai parlé, c'est celui qui était, qui commande les mousquetaires, capitaine, lieutenant des mousquetaires du roi, les mousquetaires du roi ont été créés sous Richelieu. C'est le roi de France, Louis XIII, qui a demandé à Richelieu, pour sa protection, d'avoir une escorte de garde. Et les mousquetaires sont nés en 1622. Tréville étant là, étant depuis cette date, gouverneur des mousquetaires, capitaine des mousquetaires. Tréville vient de Oloron-Sainte-Marie. Il y a sa plaque. Oh là, mais... Oh là, je ne sais pas revenir, merde. Oui. Attends, hein. Voyons. Voilà. Alors on arrive ici, dans le centre de Paris, rue des Fossoyeurs. Vous voyez un petit peu la rue des Fossoyeurs, hein, où ça vous amène. C'est du côté de Saint-Sulpice, hein, dans le 7e. Alors, hein. Alors, vous avez la rue des Fossoyeurs, elle est, vous voyez l'église de Saint-Sulpice, là on la voit. Hein. Bon, à cette époque-là, elle n'était pas reconstruite. Maintenant, elle est reconstruite. On voit le toit là-haut, vous le voyez, depuis l'entrée de la rue. Et à l'époque, la rue des Fossoyeurs a mené sur une espèce de cimetière, une vieille église, qui a été reconstruite à ce moment-là, 1644. Donc, on peut penser que notre héros a connu ses travaux à Saint-Sulpice. Et alors, les mousquetaires étaient logés, donc tous les deux se sont logés ici, à ce Gaillard du Bois, ça s'appelle l'hôtel Gaillard du Bois, il y a une plaque. Hein. Et puis, ensuite... la rue de Tournon, que vous voyez, c'est la rue où était donc Tréville avec l'entraînement des mousquetaires. Mais on n'est pas des mousquetaires, on ne rentre pas mousquetaires, on rentre cadet chez les mousquetaires. Et on y reste 3, 4, 5 ans avant d'être mousquetaire. Donc par conséquent, ces jeunes, ils sont arrivés dans Paris en étant des cadets. Et donc ils sont formés dans ce... Actuellement, il y a une caserne de pompiers. Il y avait un certain espace, hein, rue de Tournon. Voilà, alors après, vous voyez un petit peu, hein, le Paris de l'époque, hein, il y a le pilori. Vous voyez le pilori encore, à l'époque, il y avait des endroits où il y avait le pilori. Ici, il y a le pré au clair, plus bas. C'est là que se battaient tous les mousquetaires, là, dans ce coin, à côté de la Seine. Là. Et c'est là qu'a été tué Athos, alors que, bon, on en parlera plus loin, mais Athos a été tué d'un coup d'épée ici. Et donc, par conséquent, le mur, il y a encore les fondations, les fortifications, de Philippe le Bel et en plus, plus ancien encore, Philippe Auguste. Donc voyez le Paris de l'époque, hein, une tristesse. Bon, si ça veut avancer. Oh, je vais faire avec ça. Hein. Voilà, alors nous sommes encore sous Richelieu. Et Louis XIII, Richelieu, va mourir en 1642, et D'Artagnan sera, ne s'appelle pas encore D'Artagnan, Charles sera avec Besmeau encore des cadets, ils ne sont pas mousquetaires. Alors donc, il y a un décalage entre ce qu'a dit le roman, les trois mousquetaires, et la réalité. Il y a 15 ans, 10 ans d'écart. Quand vous lisez les trois mousquetaires, on est sous Richelieu. Et alors il y a des combats entre les gardes de Richelieu, qui sont les gardes rouges, et puis les mousquetaires du roi. Mais là c'est fini, tout ça, ça n'existe plus, puisque les duels aussi sont interdits. Et donc on arrive à ce moment-là de la fin du règne de Louis XIII. Mais on est en pleine guerre. Alors la guerre, on l'a reprise, il y a la guerre de 30 ans, on n'était pas engagé. Mais... À un moment donné, pour des raisons politiques avec l'Espagne, on s'est engagé en 1635. Alors cet engagement va entraîner pour les cadets mousquetaires des combats, et nos hommes sont toujours les premiers dans tous les combats. Ils se singularisent, Besmeau et D'Artagnan, en étant toujours les premiers dans toutes les luttes, et par conséquent, on les repère déjà, hein, pour éventuellement en faire des mousquetaires. Alors voilà comment ça se passe, les combats, on est encore avec le mousquet, et puis la forquille là, qui tient le mousquet, ça pèse 7 kg, et 7 kg, il faut 5 minutes pour charger, Et puis on n'a pas encore de platine derrière là pour taper avec le silex pour allumer la mèche. Alors on a une mèche qui panouille. Hein. Il faut d'abord mettre la poudre, enfiler la poudre. Hein. Puis, vous voyez, ils ont autour des cartouches de poudre. Et qui s'appellent les apôtres, parce qu'ils en ont 7, ils en ont 12 chacun. Et donc, alors ils chargent, il faut charger. Puis, alors, on travaille comme avec les archers, hein, les archers sous un coup, on se mettait en ligne, puis il y avait une ligne qui tirait, l'autre qui arrivait derrière, on se succède. Bon, voilà. Parce qu'il faut s'imaginer que les mousquetaires, ce ne sont pas toujours des flambeurs à cheval, tout ça, avec des petites épées. Non, ils vont sur le terrain, on les a mis au champ d'honneur, ils y vont, hein. Ils se battent, hein. Ils se battent pas uniquement à cheval. Vous verrez qu'il y a de la parade avec des mousquetaires à cheval, mais il y a 20% des mousquetaires à cheval, le reste ce sont des soldats de troupes. Alors on va avoir plein de batailles qui vont se succéder puisqu'on se bat contre l'Espagne. On est en 1644-45, voilà, donc voilà, on gagne. Dans le nord, du côté d'Arras, dans les Flandres, Collioure, Perpignan, tout ça, dans le sud. Puis en Italie aussi, mais j'ai pas, je ne vous ai pas donné toutes les batailles parce que vous m'auriez arrêté. Alors, là, alors voilà, qui sont-ils? Alors on va en parler un petit peu puisqu'ils ont été vraiment des gens existants, Athos, Porthos et Aramis. Et là, c'est le valet, ils avaient des valets. Planchet. Et voilà, les valets. Donc, mais. Alors, passons, parce que c'est quand même dans le roman tout ça. Hein. Alors, Athos, lui, on le fait mourir très vieux, dans le plus vieux, dans les trois mousquetaires de Dumas, mais en réalité, il a été pointé par une épée au champ, le fameux champ, voilà, il s'est battu, et donc il est mort à 30 ans, 30 à 35 ans, le vrai. Donc, par conséquent, il n'a pas pu. Porthos, on le présente comme ça. Mais c'était un personnage qui était de Pau, et qui a après fini ses jours en Avarens comme gardien de la citadelle. Et puis Aramis c'est un gars aussi très, très intéressant puisque on le faisait passer pour... on lui a donné plein de l'affaire, le compte de l'affaire, etc. Plein de titres alors qu'il n'avait pas de titre. Il est simplement... L'abbé laïque, il l'a mis abbé laïque de la vallée de Bérétous, mais en réalité, abbé laïque, il a été, exactement, abbé laïque, ce n'est pas abbé laïque, c'est quelque chose, c'est objecteur de conscience, ça s'appelle, voilà. C'est pour ça que je me suis toujours demandé pourquoi on l'appelait abbé laïque, voilà. Donc, passons, la reine, bien sûr, la reine, elle est seule maintenant, elle a perdu le roi, elle va être secondée par Mazarin, qui va arriver. Et à tous les deux, Mazarin, la reine et le jeune roi, qui est né en 38, donc il a 4 ou 5 ans, vont être obligés de gérer le pays. Mazarin a été introduit par le cardinal Richelieu et puis par Louis XIII comme successeur. C'est un personnage religieux qui est venu, ambassadeur, qui est venu de Rome, qui est monté, qui a été amené petit à petit par Richelieu, parce qu'il a de grandes qualités, économe, très strict, ça suit la lignée de Richelieu. Hein. Voilà donc ces trois ces personnages, mais il va se trouver que, comme c'est un Italien, qu'il est avec une Espagnole, les gens ne vont pas l'accepter. Les nobles vont se dire, mais comment ça, on va se rebeller, c'est la fronde qui va arriver. La fronde va arriver en 48, et là, déjà, il se méfie du retour, et il se méfie des mousquetaires, donc il va les supprimer. Donc, notre ami, qui vient d'être mousquetaire en 1644, va se voir devenir garde du corps ou une autre chose, une autre fonction. Mais les mousquetaires ont disparu pendant 10 ans, voilà, parce que Mazarin s'en méfiait. Plus avancé. Voilà. Alors la fronde arrive, alors qu'on est toujours en guerre contre l'Espagne, hein. Mais il faut gérer. Alors Mazarin va être, vous savez l'histoire de Mazarin, les Mazarinades, tout ça, il y a eu une révolte des grands, mais qui a soulevé le petit peuple aussi. Ça a été une véritable un véritable drame pour la France, d'autant que le roi, le jeune roi, et sa mère, et Mazarin, se sont trouvés obligés de partir, opinément, et c'est D'Artagnan et Baisemeaux qui les ont sauvés, qui les ont fait sortir des Tuileries de nuit et qui les ont amenés à Saint-Germain, donc Saint-Germain-l'Laye, dans une nuit d'hiver glaciale. Et Louis XIV se rappellera toujours du rôle qu'ont joué ses seigneurs dans cette fronde. Ce qui fait que plus tard, il aura intérêt à les avoir tous groupés autour de lui. Ce qui explique que Versailles sera un lieu de rencontre et de surveillance de tous ces personnages qui lui ont fait de sales coups à ce moment-là. Alors, Mazarin a été obligé de partir en Allemagne. En Allemagne, il a eu la chance d'avoir D'Artagnan et Baisemeaux, et puis quelques anciens mousquetaires qui ont été des agents secrets. Ce qui fait qu'ils ont porté des messages dans toute la France. Ils sont allés en Angleterre aussi demander à Charles Ier certaines influences. Et petit à petit, si vous voulez, il y a eu un retournement qui fait que Mazarin a pris le dessus, est revenu à Paris, la fronde s'est terminée, les mousquetaires vont être rétablis 2-3 ans après, mais qu'est-ce qu'il va faire? De suite, il va s'occuper de faire sacrer le roi à Reims. Comme ça, il n'y aura pas de conflit autre, de contestation possible. Alors voici la première. Alors à Reims, Louis XIV va être donc reçu. Donc Louis XIV est roi maintenant. Il n'y a pas de contestation possible. Il a 14 ou 15 ans, hein, 16 ans, je pense. Non. Et en 54, suite à ça, immédiatement après, il y a une victoire. Hein, terrible qui se fait, la victoire de Stenay, qui est, c'est pour ça qu'on a fait une médaille commémorative, et les mousquetaires qui sont revenus sont maintenant à la pointe des combats grâce à ces commandements. Alors, l'ancien Préville est parti, et maintenant on s'apprête à le remplacer, et peu à peu, ce sera dans 5 ou 6 ans D'Artagnan qui commandera, qui sera capitaine. Lieutenant des mousquetaires. Voilà le mousquetaire, comment on le conçoit, on le voit. Alors il y a une bannière, bien sûr, qui dit « je t'envoie un moulet, mais tu vas le recevoir, mais tu vas y passer. Hein, » Bon, bref, c'est en latin, hein, je vous le traduirai pas, c'est trop petit. Et alors ensuite, vous avez la tenue des mousquetaires qui se présente ici. Alors il y avait les mousquetaires gris, c'était les mousquetaires du roi. Mousquetaire gris, c'était blanc, et gris, c'était le mousquetaire du roi. C'est une distinction. Alors après, on avait quand même, dans les combats, on avait des épées. Hein. On n'avait pas les stocks. Hein. On avait pas les... Et puis après, vous avez une cape, ici, qui recouvre une partie du corps, des bottes assez hautes, et on va en parler de ça, vous allez voir. Voilà. Alors voilà comment était habillé à ce moment-là, quelques années avant ou après, le mousquetaire, avec un chapeau avec un plumet, et une cape, une tenue juste au corps, qui est là, qui est jaune, mais qui était rouge, ça le rendait visible, mais en fait, c'était le mousquetaire du roi était rouge, avec un juste au corps rouge. Et la capeline ou la soubre-veste, qui est une lande veste rouge à l'intérieur, et puis avec la fameuse croix argentée, et puis des flammes rouges, hein, qui rappellent dans les équations. Voilà. Donc, voilà le mousquetaire. Alors, le problème, c'était un problème intéressant parce que, au début, je ne sais pas si vous rappelez, des bottes qu'avait Richelieu sur la photo de la prise de La Rochelle, c'était des grandes bottes ouvertes comme ça, écussables, comme vous avez là. Et alors, il s'est trouvé que, avec la pluie, à cheval, ça se garnissait. Alors, ils ont dit, ben, c'est simple. On va allonger la capeline. Alors ils ont mis les capelines qui descendaient très bas. Ce qui fait que dans les combats, ils ne pouvaient plus tirer le sabre. Donc ils l'enlevaient, Et finalement, on ne le distinguait plus dans les combats, ils n'avaient plus la croix, voilà. Donc c'est une petite anecdote. Après, ça a disparu en 1814. Les mousquetaires ont disparu à ce moment-là, parce que, ça n'avait plus d'intérêt, ça coûtait cher. Voilà, donc passons. Alors, ces mousquetaires, ils avaient de grandes qualités. Ils étaient magnifiques durant la guerre, mais impossibles durant la paix. C'était de sales garçons, n'importe. Alors, comme il n'y avait plus de guerre que de calme, ça allait. Mais quand il y avait des périodes où il y avait des accalmies, ils étaient dans la capitale et ils embêtaient tout le monde. Hein, ils allaient dans les familles, parce qu'on ne les logeait pas dans les casernes, on les logeait dans les camps, et puis ils allaient dans les familles. Alors, les familles se faisaient l'honneur de prendre un mousquetaire, de l'entretenir. Ils restaient pas longtemps, puis ils repartaient, ils revenaient. Et il y avait des histoires, parce que les mousquetaires, ils avaient un talent fou pour séduire ces dames. Et alors, il y avait des cures aussi, donc, voilà. J'ai des textes là, des petites phrases, je ne vais pas vous les lire, ce serait trop long. Mais, alors, Louis XIV a dit, bon, mais on va les encaserner. Alors, voilà les premières casernes qui se sont faites à Paris, notamment dans le 17e arrondissement. C'est aujourd'hui un hôpital, l'hôpital des 80. Les 80, c'est un hôpital ophtalmologique. Mais la structure militaire de cet hôpital, c'est une caserne. Il y avait 320 mousquetaires par caserne. Voilà, c'est le corps de mousquetaires 320. Et il y a des parcs pour les chevaux, c'est très très bien organisé. Hein. Et le bâtiment est magnifique encore. Hein. Et puis il y avait une cour centrale, il y avait des manèges pour les chevaux, il y avait des palefreniers, et il y avait aussi de quoi loger les valets qui suivaient. Alors, ils n'avaient pas de gros revenus, les mousquetaires, parce qu'on leur fournissait l'essentiel, la cape, puis l'épée. Et après, ils vivaient, je vous dis, au crochet des gens. Voilà, il y avait peut-être une petite somme, mais il vivait au crochet des gens, des familles. Voilà, je passe. Alors ça, Louis, c'est pour ça que, comme un mousquetaire, D'Artagnan, qui était aussi, comme les autres, toujours à droite et à gauche, changeant de femme, des copines, des ceci, des cela, il allait dans les salons de Madame de Sévigné, voilà. Donc, voilà, ce qui s'est passé, que le roi a dit, hop, 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 maintenant que le roi en a fait son ami, puisque c'est quand même un personnage qui l'a sauvé, hein, du temps de la... et puis qui a été toujours fidèle. La fidélité d'un D'Artagnan, c'est un homme extraordinaire, puis dévouement complet à son roi. Et alors, voilà l'acte de mariage de D'Artagnan. On lui a fait épouser une dame veuve qui avait quand même de quoi. Alors, Madame de Chambessy. Et alors, le mariage n'a pas duré longtemps parce que Pardi, il est reparti, il avait ses amours à droite, à gauche.
Après, il avait des sous.
Et il avait quelques sous, mais il va en avoir davantage parce que maintenant, le roi va l'anoblir vraiment, le traiter de comte. Comte d'Artagnan, il va être. Voilà. Comte d'Artagnan. Et alors, le problème, c'est que maintenant, nous arrivons à la fin de la guerre contre l'Espagne, et nous avons D'Artagnan qui va toujours suivre. Le roi. Et le roi a décidé de marier le roi avec l'infante d'Espagne. Donc il va falloir descendre dans le sud-ouest et en même temps on pourrait signer la paix des Pyrénées sur l'île des Faisans, vous connaissez tous. Voilà. Alors on descend, on part en 59, au mois de mai 59, pensant que le mariage serait en septembre. Mais ça traîne. Les Espagnols ne veulent pas signer le traité des Pyrénées. Il y a des problèmes. Bon, il y a la Cerdagne, tous ces pays, tout ça qu'ils vont nous donner. Ça leur coûte cher, la race, là-haut, tout ça, bref. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, Mazarin dit au roi, écoutez, sire, profitez-en pour aller visiter un peu votre province, et puis on va essayer d'avoir rapidement, on va sortir du conflit. Alors, en attendant, il est allé, le roi est descendu, il s'est arrêté à Briard, à côté de La Rochelle, puisqu'à La Rochelle, il y avait eu de grands problèmes sous Richelieu. Il voulait se rendre compte un petit peu de l'état de la région. Et Briare, c'est une citadelle faite par Vauban, qui, d'où est parti Samuel de Champlain pour le Canada. Alors il voulait rendre hommage à Samuel, 50 ans avant, il voulait rendre hommage à Samuel de Champlain, Briare, et sur ces entrefaites, il a continué son chemin. Mais il avait avec lui sa petite copine, Marie Mancini, qui est la nièce de Mazarin. Et son premier amour, son grand amour, c'était la folie. Et alors cette petite, elle a été obligée d'abandonner son roi, parce que, pour raison d'État, il allait épouser l'infante d'Espagne. Donc, on a... Alors, je ne sais pas si vous connaissez les remparts de Bièvre. Alors, il y a une plaque où on voit, ici, Marie Mancini a salué pour la dernière fois son prince et son amour. Donc, c'est une petite histoire, c'est rien. Mais alors, après, c'est pas tout. C'est qu'on est arrivé à Bordeaux, donc on y est resté 2 mois. Mais parce qu'à Bordeaux aussi, il y avait plein d'histoires. À Bordeaux, pendant la Fronde, ils ont monté une république. C'est la République des Ormeaux. Alors il fallait aller voir comment ça s'était passé, si ça s'était bien terminé. Ça s'est terminé par la force, hein, mais tout allait bien. Et puis, on va à Toulouse. Alors l'arrivée à Toulouse, c'est quelque chose. Donc on n'en parle pas beaucoup de Louis XIV à Toulouse, parce que quand vous demandez aux gens quel est le monarque qui est venu à Toulouse séjourner, bon, on pense, quel est le roi de France qui on pense aux Visigoths, ils sont restés 100 ans. Mais enfin, on ne pense pas à Louis XIV qui est resté 3 mois à Toulouse. Alors, il est arrivé par le Pont Neuf, en venant donc de Saint-Cyprien, et il y a une plaque d'ailleurs à l'entrée du Pont Neuf, à côté de la grave, de l'Hôtel Dieu. Et puis, il n'était pas fini le Pont Neuf, il restait une arche, mais enfin bon, ils sont passés quand même. Il y avait 15 000 personnes qui sont arrivées dans une ville de 45 000 habitants. Toulouse avait 45 000 habitants à l'époque, plus 15 000 qui sont arrivés. Alors il y avait 5 000 soldats et 10 000 accompagnants. Alors il y avait de tout, de toutes les professions, des gens qui réparaient les charrettes, il y avait des gens qui accompagnaient, il y avait des comédiens, il y avait de tout dans ce monde de la cour qui suivait. La cour se déplaçait souvent. C'était, il n'y avait pas d'endroit fixe. Hein. Tous les ans, on allait à la chasse, on montait à tel endroit, et puis on se déplaçait en fonction, mais la cour suivait. Et là, alors ça c'est les capitouls, c'est la seule, une des rares qu'on ait planche. Alors, l'histoire est racontée par Jacques Arlet, qui était un médecin toulousain, un professeur de médecine, qui a travaillé sur cette histoire de Toulouse. Jacques Arlet, je l'ai dit, qui a écrit l'histoire de Toulouse, ça c'est des références, et il nous raconte que le roi est resté à la préfecture actuelle, hein, donc c'est l'archevêché, si vous voulez, à l'époque. Mm-hmm. Ensuite, il a été obligé de rencontrer donc les consuls, il en a viré quelques-uns, mais après, tous les jours, il y avait la messe. Il y avait aussi le côté amusement, sa vie de garçon, il a trouvé des amis, et puis après, il a fallu qu'il aille aux Jacobins, sur la tombe de Saint Thomas d'Aquin. Après, il a fait Saint-Cernin aussi, il y a eu des concerts, parce qu'il y avait en même temps toute la cour qui a suivi. Il y avait Lully, et puis il y avait l'autre musicien, hein, Couperin qui a suivi. Et alors Couperin et Lully ont fait des pièces, donc de l'orgue pour Couperin. C'est tout ça et se retrouve dans un CD qui a été fait, où ça prépare, si vous voulez, la future mariage de Louis XIV. Et donc, tout ça, ça a été joué avant, à Toulouse. Le roi s'est distrait. Et puis, il a aussi, comme il avait un pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire qu'il pouvait toucher
les écrouelles.
Les écrouelles, c'est une séquelle de tuberculose. Et il a été à l'Hôtel Dieu toucher 300 ou 400 personne comme ça. Donc il s'est occupé, quoi, voilà. Hein. Alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu, au départ du roi, une somme donnée par Toulouse obligatoire de 140 000 livres. Ça correspond à 3 200 000 euros qui ont été donnés au roi. Et Toulouse a mis 30 ans pour se renflouer. Donc voilà l'histoire de Toulouse. Bon, enfin bref, après il est allé. C'était l'hiver. Il est resté d'octobre à janvier. L'hiver, ils sont partis à Marseille. Puis après, pendant ce temps, les tractations se sont faites. Quand il est parti de Toulouse, le traité des Pyrénées était signé. Donc ils ont attendu l'hiver en Provence. Puis ils sont revenus en passant par le Roussillon qui venait d'être annexé. Il est allé voir un petit peu comment c'était. Et puis après, ils sont revenus sur Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Donc le mariage a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz. Vous le connaissez, le mariage de Saint-Jean-de-Luz. Il y a une porte dans à l'église Saint-Jean-de-Luz où, quand le cortège est sorti, on a fermé la porte. Personne d'autre n'y est passé depuis. Voilà. C'est dans vous la connaissez, l'église Saint-Jean-de-Luz. C'est marqué en gros. Voilà, je passe. Alors voilà le traité, le mariage royal qui a eu lieu. Ce mariage royal a eu lieu, donc, vous voyez, en 1560, donc début de l'été. Donc par conséquent, là on a les Espagnols, et là il doit y avoir normalement les mousquetaires. Mais bon, dans tous les portraits qu'on a vus, dans toutes les archives et tout ça, dans toutes les collections de tableaux, on ne trouve pas la tête, on suppose la tête de D'Artagnan, mais on ne sait pas le dire. Voilà, là, il y a les Espagnols, des Haraux, qui avaient tracté avec Mazarin, les deux premiers ministres. Voilà, donc, alors, après, on repart sur Paris. Voilà. Alors, à part sur Paris, il s'est trouvé qu'il y avait avec lui Fouquet, qui a été toujours l'homme de confiance aussi, le soutien pendant la Fronde de Mazarin. Mais ce Fouquet, il a été un petit peu contesté parce qu'il met trop d'argent de côté, il a une vie extraordinaire. Vaux-le-Vicomte, qu'il a créé, fait que Louis XIV se demande si un jour il aura la même demeure. C'est somptueux. Alors il a pris tous les architectes que prendra 20 ans plus tard Louis XIV pour construire Versailles. Voilà, donc c'est. Alors Fouquet, c'est l'écureuil. Sur toutes les poutres, les cheminées, vous avez un écureuil. Et il a été traité de traître parce qu'il s'enrichissait. C'est sûr qu'il était conseiller aux finances, c'est lui qui s'occupait du grand gestionnaire des finances. Et donc là, il s'est mis de l'argent de côté, sûrement. Mais alors, il a été arrêté dès que Mazarin est mort, en 61. Parce que Mazarin le soutenait, mais Mazarin meurt en 61 et Fouquet est arrêté par, justement, D'Artagnan. Alors, D'Artagnan a été dans l'obligation d'arrêter Fouquet alors qu'il se connaissait bien. Ils avaient de grandes amitiés. Mais il l'a amené, donc. Alors, il est resté 3 ans dans le coin. Il y a eu le procès à Nantes, il l'a arrêté à Nantes. Après, le procès est allé à Amiens, puis ils sont revenus à la Bastille, et puis après, de la Bastille, après le verdict, on est parti à Pignerol. Pignerol, vous avez entendu parler de Pignerol. Voilà. Alors ça, c'est la Bastille. Alors, la Bastille, avant qu'il parte, D'Artagnan s'est soucié de son prisonnier, et le commandant de la Bastille, le gouverneur de la Bastille, c'est son copain, François de Molle. Sieur de Besmeaux, toujours le même avec qui il était parti, il est devenu gouverneur de la Bastille parce qu'il a été blessé dans un combat en 50 ou en 48. Et donc, par conséquent, il est gouverneur. Et ils se sont un peu heurtés avec D'Artagnan parce que D'Artagnan trouvait qu'il n'avait pas un régime, il n'avait pas assez d'égards vis-à-vis de son prisonnier. Voilà. Mais en plus, il lui a reproché qu'il s'enrichissait aux dépens de ses prisonniers. Il s'est fait une fortune aux dépens de ses prisonniers, en leur donnant des avantages à l'un à l'autre. Besmeaux n'a pas été très correct, alors que D'Artagnan restait toujours droit. Allez-vous ? Alors, voici Pignerol. Pignerol, c'est dans l'Italie, à la frontière italienne. C'était possession française à l'époque. C'est une forteresse d'où on ne sort pas, hein. Ça, c'est sûr. C'est vraiment très verrouillé. et on y mettait les prisonniers d'État, enfin tous ceux qui avaient trahi. On avait la moitié au lit, là, qui avait trahi en Italie, Dubreuil, Lapierre. Et puis surtout, on a Nicolas Fouquet. Voilà, Nicolas Fouquet a été amené dans cette... il avait quand même deux valets pour l'aider, voilà. Et il est resté, Fouquet est resté jusqu'en... Il est mort en 80, 1680, et il est rentré en 1664. Donc, vous voyez, il a eu de quoi se faire. Voilà. Et il n'y avait pas de... Et puis dessous, il y en a un autre, Lauzun, on va en parler. Parce que c'est toujours D'Artagnan qui les accompagne et qui veille, toujours. D'Artagnan a accompagné donc Fouquet, mais en partant dans un certain endroit, il lui a fait rencontrer son épouse et les enfants, discrètement. Donc il a quand même du cœur et c'est quelque chose de marquant chez lui. Alors, oh là, attendez. On y arrive. Ah, alors là, j'ai besoin de... Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas encore ça. Voilà, on est là. Hein. Alors, donc, Nicolas Fouquet, donc. Et alors, après, il y a eu le masque de fer aussi. Alors, le masque de fer, c'est ce fameux Sache d'Angers. Qui est mort, on a dit, vous avez écouté plein de livres là-dessus, et il y a même Marcel Pagnol qui a fait un livre sur le masque de fer. Donc il y en a des centaines de livres sur le masque de fer, et d'hypothèses. Mais enfin, il était ici, soi-disant, le masque de fer, sous cette... Et puis, quand Fouquet est mort, on a dit qu'il y avait eu un transfert. On a mis le masque de fer, enfin bref, on a changé les choses, je ne sais pas, enfin, cette histoire, elle est difficile à comprendre. Chacun a son hypothèse. Voilà. Alors donc, là, la guerre continue, et on arrive à une nouvelle guerre contre l'Espagne, la guerre de dévolution. Alors la guerre de dévolution, c'est parce que en 67, eh bien, le roi Philippe IV, le père de la reine, est mort, mais il n'y a rien eu au point de vue de la dot. On attend toujours la dot du mariage, vous vous rendez compte? Alors, il s'est trouvé que les Français ont fait la guerre en Espagne pour récupérer la dot. Voilà, donc alors on gagne Lille, on gagne plein de villes dans le nord, dans l'Artois, hein, Arras, tout ça, bon, on se bat. Et puis on ne se bat plus dans le sud-ouest, puisque c'est acquis, mais on va se battre là-haut, plus haut, et puis ça va durer deux ans. Et là, la paix d'Aix-la-Chapelle. Et puis donc. Après, un peu de calme, on arrive à 70, 1670, un peu de calme, mais c'est là que... Non, mais il y a le nœud, là. C'est pas ça. Le nœud. Okay, bon, ça fait rien, je vais passer plus vite. Voilà, 1670, on a Lauzun. Le fameux Lauzun qui va être amené à Pignerol aussi. Je laisse la photo avant, peut-être. Il y était marqué, Lauzun. C'est un officier, un duc de Lauzun. C'est un officier ami qui a été estimé par le roi parce qu'il a gagné plusieurs batailles, plusieurs villes, durant la guerre contre l'Espagne. Et il est autour de la cour, il rayonne. Là. Mais c'est un personnage un peu particulier. Et il cherche l'aventure avec l'une, avec l'autre. Et puis, il s'attaque à la maîtresse du roi, Madame de Valentine, Laventinois, enfin, bref, qui va devenir princesse, qui va se marier avec le prince de Monaco. Donc, mais là, si vous voulez, c'est la fille du maréchal de Gramont, qui est aussi un gars qui est parti du sud, qui a fait comme D'Artagnan, qui s'est enrichi après. Et qui donc cette fille, il lui tourne autour, alors on a dit non, hop, le roi l'a dit, bon, mais pas question, la marie, et puis voilà. Mais après, il s'est attaqué à la Montespan aussi. Ah, alors là, ça a chauffé, parce que ce sont à la Montespan, il lui a dit elle l'a rapporté au roi, et là, il n'était pas content, enfin bref. Puis, sur le plan militaire, il donnait des conseils, tout le temps. Ce qui fait que le roi a dit, Lauzun, à Pignerol.
Et Lauzeux est parti avec D'Artagnan, toujours pareil. C'est D'Artagnan qui l'amène dans ses bagages, avec sans mousquetaire qui accompagnait. Voilà. Et qui veille après à ce qu'il soit bien traité. Il est resté 8 ans, puis il est sorti, il s'est marié. Alors oui, surtout qu'il avait cherché aussi la cousine du roi, madame, voilà, la grande mademoiselle. Il avait essayé de la... Puis, elle était amoureuse. Quand il est sorti, elle s'est mariée avec lui. Bon, ça fait une histoire terrible avec le roi, mais enfin bref. Et ce Lauzun, finalement, il a fini en Angleterre. Puis, bon, bref, c'est un livre à écrire. Là. Voilà. Donc, Lauzun, le marquis de Lauzun. Hop. Alors, nous arrivons à la dernière des situations. C'est la fin de la vie. Alors, il y a eu une guerre contre la Hollande qui a commencé en 1671. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Espagne était exsangue, il n'y avait rien à en tirer, on avait tout pris. On a dit, maintenant que l'Espagne reste neutre, les Saxons, tout ça, n'ont pas bougé non plus. On a dit, on monte directement, on va s'emporter quelques places fortes en Hollande. Alors, on revient à Lille. Lille, il y avait, on a mis D'Artagnan, gouverneur de Lille. Il était fier, c'est un titre très important, hein. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas entendu avec Vauban et avec ses ingénieurs. Alors il a dit, le roi a dit, écoutez, emmenez-moi-le, vous allez diriger la conquête de la Hollande. Alors il est parti à Maastricht. Le siège de Maastricht s'est bien passé, s'est terminé pratiquement, était pratiquement terminé. Bon, notre ami D'Artagnan a dit, écoutez, moi je me repose maintenant, finissez-le. Et il y avait un groupe de Gallois, elle est là, Marilyn. Il y avait un groupe de Gallois, de Monmouth, avec le duc de Monmouth, qui est un descendant de Marlborough, de Churchill. Tu vois, enfin, ça. Alors ce duc de Monmouth, c'était un jeune de 21, 22 ans. Il avait un groupe et il a voulu faire le fort, quoi. Il a voulu finir la besogne. Mais il y a eu de la résistance à cette porte. Et on a appelé D'Artagnan en secours avec ses troupes. Alors il est venu, mais il s'est fait tuer à ce moment-là par une projectile qui rentrait dans la gorge. Et d'après ce que l'on sait, ce projectile serait descendu jusqu'au Rhin, d'après ce qu'on a trouvé comme fouille archéologique dernièrement. Ce serait donc la sépulture de D'Artagnan qu'on a trouvé à Volder, à côté de dans une petite chapelle, à côté de Maastricht. Et dans ce coin, ça tombe bien parce que ce coin-là, il y avait les troupes françaises qui étaient toutes parquées dans des campements. Et la seule église qu'il y avait, c'était cette église du petit village. Alors, comme il était catholique, c'est normal qu'on l'ait amené dans cette église. Et puis, on l'a mis sous l'autel, comme les grands, hein, parce que c'était un grand personnage. Hein. Voyez le bâton de maréchal, il ne l'a pas eu. C'est justement notre ami Dumas qui lui a mis, dans 20 ans après, le bâton de maréchal, alors qu'il n'en a jamais eu. Il aurait dû l'avoir après, voilà, mais il ne l'a pas eu. Mais donc, par conséquent, dans les fouilles, si vous voulez, on a trouvé la balle, le projectile, qui sont des balles de 18 mm, qui allaient dans les mosquées, là, voilà. Et puis, après, une pièce aussi de la même époque. On pense, alors maintenant, avec les tests ADN, on pense qu'on a trouvé, finalement. Alors, il y en a qui disent, on va le mettre au Panthéon. J'ai entendu, hein, mais bon. Je pense qu'il restera à Maastricht, à l'endroit où il a été tué. Et donc, par conséquent, c'est un personnage très, 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 très important de notre histoire régionale, mais nationale, surtout nationale. Alors, je vais peut-être conclure maintenant, mais j'ai des choses à vous dire encore, des petits détails, concernant donc les Dumas. Dumas a été suivi par de nombreux écrivains qui ont pris exemple sur lui. Et je pense à son ami Théophile Gautier. Théophile Gautier qui a écrit donc par conséquent plusieurs ouvrages dont je vais vous parler. Hein. Et qui a été le compagnon aussi de ses aventures. Alors Théophile Gautier, il a écrit donc, bon, plusieurs,
plusieurs ouvrages. Mais en 1830-1840, il est né à Tarbes, c'est pour vous dire qu'il est quand même du coin, et que c'est encore... Et puis après, il y a Edmond Rostand aussi, qui est du coin, avec ces ouvrages, qui va aussi faire valoir notre midi, notre sud-ouest, notre histoire locale. Donc par conséquent, Théophile Gautier, j'avais oublié d'en parler après, mais en conclusion, disons que D'Artagnan a été toujours droit. Alors oui, il y a quelque chose qui a... Il y a un petit problème qu'il y a eu. J'ai oublié, puisqu'il me manquait une diapo dans le... C'est qu'on l'a appelé D'Artagnan en 70 pour mater une révolte. Une révolte... la révolte de Roubre dans le Limousin. Et là, il y a eu des exactions. Les mousquetaires ont eu vite fait de calmer tout ce monde. Et on dit... D'Artagnan était parti avant qu'il y ait eu tous ces drames, parce qu'il y a eu 400 morts, il y a eu 600 personnes, il y a eu 40 pendus, il y a eu 600 personnes qui sont parties aux galères, plus ceux qui sont partis au Canada. Et donc, par conséquent, ils avaient vite fait de calmer les troupes. Et on ne sait pas le rôle qu'a joué D'Artagnan dans ces cas-là. Voilà. Enfin, on pense qu'il était parti avant que tout se produise. Voilà. Donc, merci donc, Alors, je vais vous parler d'un... Puisqu'il y a des diapos qui ont sauté, c'est pas grave. Si ça va marcher, on finit, hein, il y a 2 minutes. C'est un peu long, pardi. Voilà, alors les statues de D'Artagnan, on les connaît, Lupiac, Hoche. Lupiac, Hoche. Mais je voulais parler d'une statue importante. Si ça veut avancer, ça ne veut pas avancer. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est moi qui ai coupé là?
On est en arrière.
Ah, oh. Oula, on recommence si vous voulez. C'est dommage. Ça termine comme ça. C'est une chose à lire. Tu arrives à me le mettre. J'ai rien touché, je te jure. Ah bon. L'autre après. Voilà. Alors, à Paris, il y a un hommage qu'on a rendu au Dumas. Alors, c'est à côté du Parc Monceau. C'est 3 statues. La première, c'est donc Dumas avec le mousquetaire, donc son mousquetaire. La seconde, elle est de son fils, les Dames aux Camélias, etc. Et la troisième, c'est le jardin, ce jardin de l'espoir, c'est pour rendre hommage au grand-père, c'est-à-dire à Dumas, le général, puisque c'est le jardin de la solitude qui a été inauguré par Sarkozy en 2007, et je voulais en parler parce que ce sont les fers qui sont ouverts contre l'esclavage, c'est contre l'esclavage. Mais celui qui l'a fait est d'ici. Sa mère est de Rieux, Louisette Sans Arcidé était de Rieux, elle est décédée il y a 2 ans, et son fils, c'est Driss Sans Arcidé, qui est plasticien, très connu, mondialement connu, et qui est à Caen, je pense, et qui l'a fait. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, simplement. Voilà, donc... Alors, je vais terminer, puisque... en vous disant que la différence entre D'Artagnan et Dumas, quelle est la différence? Eh bien, au point de vue mythe ou réalité, Alexandre Dumas, en puisant dans les mémoires de Courtis, donc ce qu'on a vu au début, n'a pas seulement créé des personnages de fiction, il a donné l'immortalité à des hommes bien réels. Et donc, D'Artagnan historique n'a jamais participé au siège de La Rochelle, c'est vrai, mais sa vie n'en fut pas moins extraordinaire. Il a été agent secret pendant la Fronde, homme de confiance du plus puissant monarque d'Europe à ce moment-là. Il a été geôlier de l'homme le plus riche de France, voilà, et gouverneur de l'île, et finalement, héros, mort au combat, épée à la main. D'Artagnan, comme disait le roi Louis XIV, et la gloire ont le même cercueil. Voilà ce qu'a dit Louis XIV. Alors, Alexandre Dumas, la dernière photo, c'est le... je voulais vous montrer le propos d'un roman historique. Voilà, c'est la conclusion que je voulais mettre. J'ai deux ou trois diapos qui ont sauté, donc j'étais un peu perdu à la fin là, pour vous les exprimer. Parce que j'ai les armes aussi de la famille de D'Artagnan, qui est présente toujours. C'est deux tours en opposition, deux tours en opposition, et deux aigles noirs en opposition de l'autre côté, en trois
diagonales.
Voilà, donc. Et merci donc M. Dumas pour tout ce qu'il a fait. Et malgré son association avec Maquet, on peut dire que Dumas a été quand même le personnage le plus important de l'association, voilà, de ces deux hommes. Merci.
Merci.
Une ou deux questions éventuellement.
Oui, si vous voulez une ou deux questions, je vais être un peu long peut-être, mais il me manquait la fin. Il me manquait la fin, c'est pour le même diaporama qui est sorti.
Y aurait-il une question, monsieur ?
Non.
D'accord.
S'il vous plaît, oui.
Question, ici, oui.
Bonsoir à tous. Merci, monsieur, pour votre très agréable conférence.
Merci, madame.
C'était super sympa. Est-ce que D'Artagnan avait deux filles ? Parce qu'il y a un film qui était sorti avec ce film.
Non, il a eu deux. Alors, là aussi, je n'en ai pas parlé. Il a eu deux fils avec Anne Chanlecy, deux fils. Et alors, les parrains, c'est Louis XIV et Mazarin. Vous voyez un petit peu.
Ah ouais.
Donc, par conséquent, c'est...
Parrainé.
Et oui, alors... Et alors, il a jamais eu, donc, le bâton de maréchal. Bien qu'on le montre, là. Hein, mais son neveu, Henri de Montesquieu, d'Artagnan, 20 ans après, sous Louis XIV toujours, a gagné deux ou trois batailles très importantes, et le roi lui a donné le bâton de maréchal. Donc c'est son neveu, si vous voulez, qui a eu le bâton de maréchal, et toute la gloire de D'Artagnan, eh ben, elle était là, voilà. Hein.
Autre question ? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier encore Christian.
Merci à vous.
Merci. Il n'y a plus de questions. Et puis, passer au fond.
Je voudrais vous annoncer la prochaine conférence. Merci. Donc, au mois de mai, nous aurons deux conférences de nouveau. Le 20 mai, ce sera dans cette salle ici, nous aurons une conférence sur le TDAH, qui est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Merci. Ce sera dans le cadre de la semaine moins d'écran. Voilà. Et ensuite, le 27 mai, nous irons à Carbonne pour parler de l'intelligence du corps. Voilà, c'est une autre conférence. Voilà, bonne soirée. Rejoignez le buffet et merci. Voilà.